إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, nous avons vu hier le début du récit de Nuh, alayhi salam, ainsi que les circonstances dans lesquelles il fut envoyé, et le message qu'il adressa à son peuple, et la réaction qu'ils ont eue face à cela. Et on a vu que suite à leur entêtement et leur refus permanent de la vérité, Nuh, alayhi salam, invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Seigneur, ne laisse sur la terre aucun mécréant. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs. » et n'engendreront que des pécheurs mécréants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala répondit à cette invocation de son messager, alayhi salam, et lui ordonna la construction de l'arche, et c'est ce que l'on va voir dans les versets d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 36 de surat Hud, c'est donc la suite des versets que l'on a lu hier, « Wa uhiya ila Nuh, annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman » Et il fut révélé à Nuh, plus personne parmi ton peuple ne croira en dehors de ceux qui ont déjà cru. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus d'espoir en eux. Leur cœur était endurci et scellé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Fala tabta'is bima kanu yafa'loun » Ne t'afflige donc pas de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire ne te soucie pas de leurs actes. Et que cela ne t'attriste pas, car ils ont par leurs actes encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le châtiment finira par les surprendre, car ils méritent de se faire châtier en raison de leur mécréance et de leur rejet de la vérité. Puis il lui dit subhanahu wa ta'ala, وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna donc à Nuh alayhi salam de construire cette arche par lequel lui et les croyants échapperont à la noyade par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui annonça la bonne nouvelle qu'il le préserverait durant la construction de l'arche. En effet, il lui dit de construire cette arche à la vue d'Allah et sous son observation et sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Puis il lui dit « وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ » et n'interviens plus et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils seront noyés. C'est-à-dire n'interviens plus en leur faveur pour qu'ils soient sauvés, car la décision est prise à leur sujet, et le décret sera exécuté sur eux, c'est-à-dire que les mécréants seront tous noyés. Ensuite il dit, subhanahu wa ta'ala, « وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ » Et il construisait l'arche, et à chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Nuh alayhi salam s'attela à la construction de l'arche. Il ne se préoccupait plus de son peuple, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait informé que plus personne parmi eux ne croirait. Il passait donc son temps à la construction de cette arche. Il coupait du bois, il forgeait du fer, et ainsi de suite, parmi les tâches nécessaires pour finaliser cette construction. Et lorsque les notables de son peuple le voyaient construire l'arche, ils se moquaient de lui, et ce, en raison de leur mécréance et de leur insouciance quant à la venue du châtiment. Et ils lui demandèrent ce qu'il faisait. Nuh alayhi salam leur répondit qu'il faisait un logis qui flotterait sur l'eau. En entendant cela, les mécréants se mirent à rire. Et on rapporte qu'il lui disait « Tu es donc passé de prophète à menuisier » et tout cela afin de le mépriser et le rabaisser. Mais Nuh alayhi salam patientait sur leur moquerie. Et cela ne le décourageait point. Et ne le détournait pas de sa mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonnée. Il leur répondait « In taskharu minna, fa inna naskharu minkum, kama taskharun » Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous aussi nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. C'est-à-dire que lorsque vous verrez le châtiment de vos yeux, vous goûterez alors la conséquence néfaste de votre moquerie. Et c'est pour cela qu'il leur dit ensuite « فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. C'est-à-dire que lorsque le châtiment viendra, vous verrez de vos propres yeux qui sont ceux qui seront honorés et qui seront sauvés du châtiment et qui sont ceux qui seront humiliés par ce châtiment que vous réclamiez. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Hatta idha ja'a amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil » Puis lorsque vint notre ordre et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes « Charge dans l'arche un couple de chaque espèce, mais aussi ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Et charge aussi ceux qui ont cru, et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna la venue du châtiment, il fit tomber du ciel des pluies torrentielles, et il fit jaillir de l'eau de tous les coins de la terre, même des endroits dans lesquels est habituellement allumé le feu. L'eau se mit alors à jaillir de tous côtés, sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonna donc à Nuh d'embarquer sur l'arche et d'y charger un couple de chaque espèce animale, un mâle et une femelle, et ce afin que ces espèces puissent ainsi se reproduire et perdurer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ne pouvaient pas transporter tous les animaux. Il lui ordonna donc de charger un couple de chaque espèce. Et il lui ordonna aussi de faire embarquer sa famille. Et il dit à l'exception de ceux contre qui le décret est prononcé, c'est-à-dire les mécréants parmi eux. Et parmi ces mécréants, il y avait son fils, le fils de Nuh, qui mourut noyé, comme on va le voir dans un verset suivant, Inch'Allah ta'ala. Et il lui ordonna aussi de faire embarquer sur cette arche tous les croyants. Mais il dit, et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de croyants avec Nuh. Ceux qui étaient sur la vérité n'étaient que peu nombreux. Nuh alayhi salam leur dit donc « Irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim » Montez dedans, montez dans cette arche, et que sa course et son arrivage soient au nom d'Allah. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. On voit à travers cela qu'il convient d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces circonstances, et de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on monte sur une monture et lorsqu'on en descend, et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale en toute situation. Et sa parole, mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux, c'est-à-dire qu'il nous a pardonné et nous a fait miséricorde en nous sauvant du châtiment que vont subir les mécréants. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ Et elle voga en les emportant au milieu de vagues qui étaient comme des montagnes. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ « Ya Bunay, irkab ma'ana, wa la takum ma'al kafirin » Et Nuh appela son fils, qui restait à l'écart. « Oh mon fils, monte avec nous, et ne sois pas avec les mécréants. » Nuh, alayhi salam, désirait que son fils les rejoigne, et qu'il embarque avec eux dans l'arche. Il l'exhorta donc, en l'interpellant avec douceur et bienveillance, et lui dit « Oh mon fils, monte avec nous, ne sois pas avec les mécréants. » C'est-à-dire, ne reste pas avec eux au risque de subir avec eux le châtiment. Mais monte avec nous sur l'arche afin d'être sauvé de ce châtiment. Mais son fils refusa et lui dit « Sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma. Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Il pensait qu'en se rendant au sommet d'une montagne, il sera à l'abri des eaux et pourrait ainsi être sauvé du châtiment. Nuh alayhi salam lui dit alors « La 'asima al-yawma min amrillah » Illa man rahim. Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. C'est-à-dire qu'aucune montagne ne pourra servir de refuge à qui que ce soit. Tous périront, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. C'est-à-dire, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra sauver en leur accordant sa miséricorde, et c'est-à-dire ceux qui sont montés sur l'arche. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ Les vagues s'interposèrent alors entre les deux, entre Nuh alayhi salam et son fils, et son fils fut alors du nombre des noyés, car il n'avait pas cru en Nuh alayhi salam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, c'est-à-dire absorbe ces eaux qui t'ont submergé. Waya sama o aqli'i, et ô toi le ciel, arrête tes pluies. Et la terre et le ciel se soumirent immédiatement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La terre en absorbant l'eau, et le ciel en cessant de faire tomber la pluie. Waghid al-ma wa qudiya al-amr. Aussitôt les eaux baissèrent, elles se dissipèrent de la surface de la terre, et l'ordre fut exécuté, c'est-à-dire que les mécréants furent anéantis, et les croyants furent sauvés du châtiment sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wastawat ala al-Judi, et l'arche s'installa sur le Judi, c'est-à-dire que sa course s'arrêta sur ce mont, qui est un mont connu de la région de Mossoul. Waqila bu'dan lil-qawmi adh-dhalimin, et il fut dit que soient éloignés les gens injustes, c'est-à-dire qu'ils furent maudits et éloignés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir été anéantis. À ce moment, Nuh alayhi salam fut pris de compassion pour son fils. Il invoqua alors Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes: Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, tu es le plus juste des juges. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait promis à Nuh de sauver sa famille, il ne pensait pas que son fils serait noyé. C'est pour cela qu'il adressa cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit, « Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. » Ô Nuh, il n'est pas de ta famille. C'est-à-dire, il ne fait pas partie de ceux de ta famille qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait promis de sauver. Ensuite, il lui dit en le blâmant, « Innahu amalun ghayru salih. » Ceci n'est pas un acte vertueux, c'est-à-dire c'est un acte blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala blâme ici Nuh alayhi salam, car cette demande qu'il venait de lui faire en faveur de son fils n'était pas une bonne chose, car son fils avait mécru, il ne croyait ni en Allah, ni en son messager. Il ne méritait donc pas que Nuh invoque en sa faveur. Puis il lui dit, « Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. » Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Allah subhanahu wa ta'ala l'exhorta donc à ne pas demander une chose dont il ignore si elle sera bénéfique ou non pour lui. Et Nuh alayhi salam implora immédiatement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et qu'il lui pardonne cette demande blâmable qu'il venait de lui adresser. Il dit, « Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. » Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. « Wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. » Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. En effet, seul Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Et lorsque nous commettons un faux pas ou une erreur, il nous incombe de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon afin de ne pas faire partie du nombre des perdants. À ce moment, Nuh alayhi salam comprit que son fils faisait partie des mécréants, de ceux en faveur desquels il ne lui était pas permis d'invoquer ni d'intervenir en leur faveur, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit au verset 37, selon le sens, « Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes car ils seront noyés. » Nuh alayhi salam ne savait pas que son fils faisait partie de cela, mais il pensait qu'il ferait partie de ceux qui seraient sauvés. C'est pour cela qu'il a invoqué en faveur de son fils. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qila ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak, wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. » Il fut dit, « Ô Nuh, débarque en toute sécurité, et avec nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi, c'est-à-dire parmi les hommes et les animaux transportés dans l'arche. » Allah subhanahu wa ta'ala a placé en eux sa bénédiction et ils se dispersèrent sur terre. Puis il dit, « Il y aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. » C'est-à-dire que parmi eux, parmi leurs descendance, il y en aura qui subiront à nouveau le châtiment. Car le fait d'avoir été sauvé de ce châtiment ne signifie pas qu'ils sont maintenant à l'abri d'un autre châtiment. Mais ils doivent maintenant rester fermes sur la vérité, faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'ils sont ingrats et qu'ils mécroient Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils seront châtiés comme ceux qui les ont précédés. Il est donc important de comprendre que ce qui compte, c'est de rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir raconté ce récit de façon détaillée, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayk. » Ce sont des histoires qui t'étaient inconnues que nous te révélons. « Ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hada. » Toi et ton peuple les ignoraient avant cela. « Fasbir innal aqibata lil muttaqin. » Sois donc patient, la fin heureuse appartient aux pieux. La fin heureuse appartient aux pieux. On voit donc à travers ce verset que ce qui est visé par la mention de ces récits, comme on l'a mentionné précédemment, ce n'est pas simplement d'avoir connaissance de ces faits qui se sont déroulés, mais l'objectif est le raffermissement de nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a raconté ces récits dans son livre afin que nous prenions connaissance de la façon dont il a anéanti les mécréants et de la façon dont il a sauvé les croyants, et ce afin de nous encourager à rester fermes sur la religion de vérité, afin de nous rappeler que si nous sommes patients, que si nous restons fermes sur notre religion, que nous faisons preuve de persévérance, que nous nous soumettons aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous délaissons ses interdits, aussi dures soient les épreuves, aussi nombreuses soient les difficultés, la fin heureuse sera pour les pieux, la fin heureuse sera pour les croyants, la fin heureuse sera pour les gens de l'islam, aussi nombreuses soient les difficultés qu'ils peuvent subir. Même s'ils sont peu nombreux, même si leurs ennemis sont plus forts et plus nombreux qu'eux, Allah subhanahu wa ta'ala peut les anéantir en un instant. Et ce qui nous incombe à nous, c'est seulement de rester ferme et de rester droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de patienter face aux difficultés, et d'endurer cela en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que ce récit, comme les précédents, est très riche en leçons et en enseignements. Parmi ces enseignements, il y a premièrement le fait que le musulman, le croyant, se doit de faire preuve de patience dans l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Même si en se soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il subit certaines persécutions, ou alors que les mécréants se moquent de lui, le dénigrent et le rabaissent, il se doit de patienter. Comme Nuh alayhi salam patientait face aux moqueries de son peuple. Le fait que des gens se moquent de toi, cela ne doit pas te détourner de tes obligations. Tant que tu œuvres d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te soumets à ses ordres, que tu délaisses ses interdits, tu ne dois pas te soucier du regard des gens, de leurs paroles et de ce qu'ils pensent de toi. Même s'ils se moquent de toi, même s'ils te dévisagent, même s'ils te dénigrent, même s'ils te rabaissent, parce que, par exemple, tu portes la sunna, tu as laissé ta barbe, ou alors que la femme a mis le djilbab et qu'elle se couvre d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens se moquent de toi, laisse-les se moquer. Tu ne dois pas te soucier de ce qu'ils pensent. L'essentiel est que tu sois sur la vérité et que tu œuvres en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Et ceux qui se moquent verront la conséquence néfaste de leur moquerie de leurs yeux, ou bien ici-bas, ou bien dans l'au-delà. Et toi, si tu es patient et que tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras dans l'au-delà la récompense de tes bonnes œuvres, et également la récompense de ta patience et de ton endurance. Donc ceci pour nous, un encouragement à rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les leçons et les enseignements de ce récit, il y a un exemple de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si Allah veut, il peut à tout moment faire descendre son châtiment et faire disparaître tout un peuple. Aussi nombreux et aussi forts soient-ils, ils ne sont rien face à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un délai, ce n'est pour eux qu'une jouissance temporaire. Mais s'ils persistent sur leur mécréance, sur leur polythéisme, sur la persécution des croyants, alors, inévitablement, ils seront touchés par un châtiment douloureux. Et tu dois avoir la certitude de cela. Donc, que leur situation ne te préoccupe pas. Tu ne dois t'en remettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car tout est entre ses mains. Et comme on a dit, il ne t'incombe que de te soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits sans te soucier de ceux qui s'opposent à cette noble religion. Troisièmement, on tire comme leçon et comme enseignement de ce récit que les gens de la vérité sont peu nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici que seuls très peu de personnes ont cru avec Noé, alayhi salam. Et telle est la situation en tout lieu et en toute époque. De manière générale, les gens de la vérité sont peu nombreux. Tu ne dois donc pas te laisser tromper et te laisser leurrer par le grand nombre de personnes qui suivent le faux, la mécréance, des innovations et autres faussetés. Car le grand nombre, ce n'est pas un élément qui nous permet de distinguer entre le vrai et le faux. Certaines personnes pensent que sous prétexte qu'ils sont nombreux, alors ils sont sur la vérité. Mais ceci est une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, lorsqu'il a mentionné le grand nombre, c'est souvent de manière péjorative. Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, la majorité, ils t'égareront du sentier d'Allah. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa ma aktharu an-nas walau harasta bimu'minin. Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent, malgré que tu désires qu'ils soient croyants. Ils ne le sont pas. La plupart des gens. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens, et la plupart d'entre eux sont mécréants, et la plupart d'entre eux sont des injustes, et la plupart d'entre eux sont des pervers, et ainsi de suite. Donc le fait que les mécréants, les polythéistes, les gens du faux de manière générale soient nombreux, ceci ne doit pas te détourner du suivi de la vérité, même si les gens de la vérité sont peu nombreux. Même si vous n'êtes qu'un petit groupe à l'endroit où tu te trouves, tant que tu te conformes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que tu te cramponnes à la voix de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, même si tu es seul, tu es sur un grand bien, et tu te dois de patienter. Et rappelle-toi à ce sujet de ce hadith immense, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a vu les communautés qui lui ont été présentées, et il a vu parmi elles un prophète qui n'avait avec lui qu'un petit groupe de personnes, moins de 10. Un prophète qui n'avait avec lui qu'un ou deux hommes, c'est-à-dire que seulement un ou deux hommes l'ont suivi. Et un prophète qui n'avait personne avec lui. Allahu Akbar. Ils sont tous venus avec le même message. On a vu dans le cours d'hier que tous les prophètes et tous les messagers, alayhim salat wa salam, sont tous venus avec le même message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Tel était leur message. Ils étaient tous sur la vérité. Certains ont eu beaucoup de suiveurs et d'autres en ont eu moins. Et parmi eux, ce prophète qui viendra sans aucun suiveur. Personne parmi son peuple ne l'a suivi. C'est-à-dire qu'il était seul sur la vérité. Alayhi salat wa salam. Donc ceci doit te pousser à rester ferme sur ta religion. Même si tu es seul. Même si les gens sur la droiture autour de toi sont peu nombreux. Ceci ne doit pas t'empêcher de t'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, parmi les enseignements que l'on tire de ce récit, il y a la bienveillance du père envers son fils. Regardez Nuh alayhi salam, comment jusqu'au dernier moment, il tente de faire embarquer son fils avec lui afin qu'il soit sauvé. Et même après cela, une fois noyé, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Et ceci nous montre qu'il incombe aux parents de faire des efforts afin que leurs enfants soit sauvé du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijar. Ô vous qui croyez, protégez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Ceci est une responsabilité qui incombe à tout parent, et notamment au père, de tout faire pour protéger sa famille du feu de l'enfer. Et pour cela, il t'incombe de leur apprendre la religion et de les mettre dans des bonnes conditions, dans une bonne situation afin qu'ils puissent mettre en pratique cette religion. Et tu dois redoubler d'efforts afin de les préserver des voies déviantes parmi les voies des gens du faux, parmi les innovateurs et les mécréants. Et entre dans cela le fait, comme on a dit, de leur offrir un cadre dans lequel ils pourront apprendre et pratiquer pleinement leur religion. Et il n'y a pas de doute que pour cela, il incombe de les faire sortir des terres de mécréance. Cinquièmement, on tire comme enseignement de ce récit que l'enfant ne doit pas se reposer sur la piété de ses parents et que le fait d'avoir des ancêtres pieux ne te sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si toi-même tu n'es pas pieux. Regardez ici, on a l'exemple du fils de Nuh alayhi salam. Nuh est un prophète et un messager. C'est donc un serviteur vertueux aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son fils est mort noyé avec les mécréants. Donc la piété de son père ne lui a été d'aucun profit. Car si toi, tu n'œuvres pas dans le bien, que tu ne t'accroches pas à la religion, que tu ne la mets pas en pratique, que tu ne te soumets pas aux ordres d'Allah, que tu transgresses les interdits d'Allah, aussi pieux soit ton père, cela ne te sera d'aucun profit, d'aucune utilité devant Allah. Ce qui compte, ce sont tes œuvres à toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu agis? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te soumets aux ordres d'Allah? Est-ce que tu vois un culte exclusif à Allah? Est-ce que tu suis la religion d'Allah? Est-ce que tu suis la sunna du messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui est pris en considération. Donc la personne, elle ne doit pas se reposer sur la piété de ses ancêtres. Car chacun sera interrogé sur ses propres œuvres au jour de la résurrection. Sixièmement, on tire comme enseignement de ce récit, une fois de plus, qu'il convient à la personne, lorsqu'elle commet un faux pas ou une erreur, de s'empresser de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon. Car nul parmi nous n'est à l'abri des péchés, des manquements et des mauvaises actions. Mais ce qui compte, c'est que lorsque tu fautes, tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu implores son pardon, et que tu réformes ta situation. Et on a vu dans un cours précédent les conditions du repentir. Enfin, septièmement, on tire comme bénéfice de ce récit et comme enseignement le fait que d'avoir été sauvé une fois du châtiment ne doit pas te rendre insouciant. Le fait que tu aies été sauvé de la mécréance, que tu aies été guidé à l'islam, cela ne signifie pas que tu fais partie forcément des gens du paradis. Ta place au paradis n'est pas gagnée tant que tu es encore en vie. Mais tu dois faire des efforts pour rester ferme sur cette religion, t'instruire au sujet de ta religion, l'apprendre afin de pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et faire suivre cet apprentissage de la mise en pratique, de mettre en pratique ce que tu apprends. Car le fait d'avoir été guidé à la religion de l'islam et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et tu te dois, pour cela, faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Que tu sois ferme sur celui-ci, que tu t'y accroches, que tu fasses de nombreux efforts afin de préserver ta religion, que tu ne mettes pas en danger ta religion, que tu ne délaisses pas ta religion pour des biens vils de ce bas monde, ou alors par peur des gens, par peur des créatures. Mais tu t'accroches à cette religion afin de pouvoir obtenir une bonne fin et d'être sauvé dans l'au-delà. Car ce qui compte, ce n'est pas la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est la situation sur laquelle tu finiras, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de nous accorder à tous la meilleure des fins. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain un prochain récit. Bi'inillahi ta'ala wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.